9, c'était la deuxième pause musicale, chant de la guerre d'Espagne. C'est ta relation aussi avec le livre et Jean Moulin?
Oui, l'activité résistante de Jean Moulin, l'activité réelle, non plus seulement les positions de pensée, mais l'activité de l'être lui-même, ça a donc commencé pour Jean Moulin avec la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que... En 1936, il y a en Espagne un gouvernement qui correspond plus ou moins au gouvernement de Front Populaire qui va naître en France. Ce gouvernement porte l'étiquette de Frente Popular et le général Franco, entre autres, va s'efforcer de renverser par la force, par l'armée, ce gouvernement républicain espagnol qui est une nouveauté, une quasi-nouveauté pour l'Espagne. Et la France aurait dû au départ... parce qu'elle était unie au gouvernement espagnol par un traité de commerce, transférer des armes, les armes que réclamait le gouvernement républicain pour mettre fin au putsch du général Franco. Or, la France, à ce moment-là, il faudrait parler du rôle malheureux et plus que malheureux de Léon Blum, président du Conseil du Front Populaire, la France, donc, n'a pas rempli ses obligations, sauf indirectement en cachette, de façon clandestine, surtout à travers le ministre de l'air de l'époque, qui était Pierre Cotte, et qui était le grand ami, le patron de Jean Moulin, son chef de cabinet. Tous deux, donc, ont eu à faire transiter certains avions français à destination de la République espagnole, et c'est à ce moment que Jean Moulin a pris certaines habitudes de travailler dans la clandestinité, c'est-à-dire de respecter un secret, d'être efficace avec peu de moyens, et cela sans doute a été très important pour lui. Par ailleurs, on peut dire qu'il a pu comprendre l'action armée en France pendant la résistance parce qu'il a bénéficié des conseils, des renseignements de quelqu'un qui s'appelait Frédéric Manès, qui avait appartenu aux brigades internationales.
Alors, dans ce livre, vous parlez aussi de la politique française entre les deux guerres, jusqu'à 1940, 41, 42, 43, jusqu'à Caluire. Et puis, vous passez en vue également de nombreux personnages qui ont été responsables, vous disiez Léon Blum, Daladier, Maréchal Pétain, Weygand, et puis De Gaulle également. Vous citez beaucoup De Gaulle également dans cela. Si vous voulez vous faire tout un panorama de tous les personnages qui étaient aux commandes, si je puis dire, d'une façon ou d'une autre à ce moment-là.
Pour ma part, je voudrais revenir un peu sur l'attitude de Léon Blum. Il appartient au gouvernement de Front Populaire en France. Il est question de soutenir le Frente Popular. Chose étrange, Léon Blum va demander aux Anglais ce qu'il doit faire en France à l'égard de la République espagnole. Et bien évidemment, puisque en Grande-Bretagne il est question d'un régime conservateur, bien évidemment, puisque les Anglais n'étaient pas du tout liés à l'Espagne par des traités commerciaux, la Grande-Bretagne a dicté une sorte de conduite à Léon Blum qui ne correspondait absolument pas aux engagements de la France à l'égard de la République espagnole.
Vous dites a dicté, mais Léon Blum n'était pas forcément obligé de suivre
la... Eh bien, il a suivi, et ça a donné plus de 40 ans de franquisme. Et merci Léon Blum, et les Espagnols doivent dire merci Léon Blum, parce que franchement ça a été une erreur grossière de Léon Blum, et quand on voit des hommes politiques qui font des erreurs grossières pareillement, c'est triste, et c'est plus que triste.
Voilà, donc il y a une erreur d'appréciation au minimum, si j'ose dire, du gouvernement français de l'époque, qui était quand même un gouvernement de gauche. Cette erreur d'appréciation, bon, la France dans son intégralité, non plus seulement le gouvernement français, va la supporter en 1940, puisqu'en définitive, le sort de l'Espagne, le sort de Guernica sera un sort qui sera connu, toute proportion gardée, par certaines localités françaises lors des combats de 1940 et plus encore en 1944. Donc en définitive, un gouvernement de gauche qui a voulu éviter de se mouiller un peu trop pour défendre un autre gouvernement de gauche menacé n'a fait que récolter, pourrait dire certains, les fruits de ce qu'elle avait semé. Mais à côté de cela, on peut quand même penser que les Espagnols, du moins les républicains espagnols, ne nous en ont pas trop voulu à cette époque-là, puisque dans les premiers résistants, et dans les résistants les plus efficaces, on compte, dans les départements du Midi notamment, de nombreux Espagnols, anciens de l'armée espagnole ou anciens anarchistes des brigades internationales ou autres.
Effectivement, et on peut dire que Après tout ce que les Espagnols ont fait pour la France, pour lutter contre le régime nazi en France, on peut dire que le général de Gaulle, qui a pris la suite de Léon Blum dans une attitude plus ou moins grossière, n'a même pas remercié les Espagnols.
Voilà, donc Franco est mort dans son lit, rappelons-le. Et bien longtemps après.
D'accord. Justement, à propos de Gaulle, vous citez de nombreux extraits des carnets et messages, entre autres, de Gaulle, des mémoires de guerre. Et vous, notamment, en fait, vous faites allusion à la période qui précédait septembre 39, notamment lorsqu'il parle de la situation de l'armée française à cette époque. Vous me demandez, ma bien chère maman, ce que je pense du pacte franco-russe. Ma réponse sera très simple. Nous allons rapidement à la guerre contre l'Allemagne et pour peu que les choses tournent mal pour nous, l'Italie ne manquera pas d'en profiter et de nous donner le coup de pied de l'âne. Il s'agira de survivre, tout le reste n'est que littérature. Or, je vous le demande, sur qui pouvons-nous compter pour nous aider des armes à la main? La Pologne n'est rien. Et d'ailleurs, elle joue le double jeu. Je cite toujours donc dans votre livre de Gaulle. L'Angleterre a sa flotte, mais pas d'armée et une aviation actuellement très en retard. Nous n'avons pas le moyen de refuser le concours des Russes. Quelle horreur que nous ayons pour pour le régime.
Oui, c'est une attitude constante de la politique du général de Gaulle avant comme après-guerre. Pour lui, il regarde les questions militaires à travers une perception géopolitique assez étendue et donc il en restera toujours à la nécessité d'une alliance avec l'URSS, même si a priori lui-même n'est pas très d'accord avec le système d'Union soviétique. Donc cela, ça se trouve avant-guerre comme après-guerre, et d'ailleurs après-guerre ça va avoir des fruits tout de même redoutables, car le Parti communiste français va se trouver les mains liées par rapport à ce que fait le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle aura pris soin de garder de très bons contacts avec l'URSS. Et donc là, c'est quelque chose qui continue encore à marquer le Parti communiste, qui n'est pas tout à fait libre par rapport à l'histoire de sa propre résistance.
Voilà, donc vous avez rencontré, rappelons-le tout à l'heure, donc des gens proches des FTP. Alors bon, on vient de parler du Parti communiste, mais bon, on pourrait peut-être parler un tout petit peu, faire une petite parenthèse sur l'action des FTP telle qu'elle a pu vous être relatée par des témoins directs.
Oui, là, il y a plusieurs questions qui se posent, qui renvoient à Jean Moulin. En particulier sur le problème de l'armement, on entend toujours dire par les responsables, par des gens qui ont appartenu aux francs-tireurs et partisans, que les armes ne venaient guère de leur côté. Et il y a de fortes chances... justement dans les reproches qui ont été adressés à Jean Moulin et qui ont été adressés au général de Lestrin, qui était le chef de l'armée secrète et qui a été arrêté 12 jours avant Jean Moulin. Le reproche, c'était: pourquoi donc laissez-vous des armes aux communistes? Ça, c'est resté quelque chose de grave au sein même de la résistance à cette époque-là, et c'est quelque chose qu'il faut bien regarder en face à l'heure actuelle. Les FTP ont été évidemment grugé. Simplement, si l'on respecte les critères établis par Jean Moulin, c'était: l'armement doit aller vers ceux qui l'utilisent effectivement. On ne devait pas armer ceux qui ne faisaient peut-être pas tout ce qu'ils auraient dû faire. Alors que les FTP eux-mêmes, à l'époque, on a tendance à l'oublier maintenant, ont été considérés comme les plus actifs. Et cela émane également de la bouche de Serge Ravanel, qui a été chef national des groupes francs, et donc non pas dans la lignée communiste. Lui-même ne cesse de dire, de redire, certainement, les FTP agissaient mieux que nous.
Et pendant les guerres d'Espagne, c'était une autre histoire, puisque apparemment, les soviétiques donnaient surtout l'armement aux communistes plutôt qu'à d'autres unités qui, idéologiquement, leur étaient quand même un peu différents.
Oui, là, on tombe sur un problème qui est essentiel dans la perspective qui est celle de Jean Moulin. Les interventions de la politique extérieure de tel ou tel grand pays, c'est une chose. Ce qui est fondamental, c'est l'attitude du citoyen, on pourrait dire du citoyen lambda, qu'il soit préfet, qu'il soit ce qu'il voudra, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Donc ensuite, les interventions externes, c'est quelque chose qui doit être mesuré, et c'est quelque chose qui risque bien souvent de voiler le fond même d'une résistance, car une résistance si le nom doit vraiment exister, c'est quelque chose qui naît de l'intérieur même du citoyen. La question se trouve posée dans tous les régimes, à toutes les époques. Car la politique, c'est l'art de gouverner, semble-t-il, surtout les hommes. Et les hommes, on les tient, comment on peut les tenir? La question, à la base, c'est comment me tient-on? Ou alors, est-ce que je tiens un petit bout, quand même, des fils qui animent le pays, le continent ou le monde auquel j'appartiens?
Donc là, il y a peut-être une petite séparation qu'on a évoquée tout à l'heure, donc entre le fait des gouvernements, le fait des politiques, les choix des gouvernements, les choix des politiques et les choix des citoyens qui ne vont pas toujours obligatoirement dans le même sens ou qui ne se manifestent pas de la même façon. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement français a refusé de façon relativement hypocrite d'armer les Espagnols. À côté de ça, de nombreux Français se sont engagés dans les brigades internationales. Donc en fait, ça pose la question de ces citoyens-là, si j'ose dire, qui, a posteriori, peuvent toujours donner bonne conscience à l'histoire officielle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi il faut regarder le passé dans le détail, toujours dans le détail, et ça n'est facile pour personne, parce qu'à regarder les détails, on peut facilement s'y perdre. Donc il faut trouver les grandes lignes. Dans ce cas-là, le personnage de Moulin est vraiment éblouissant. On peut dire qu'il peut servir à éclairer la jeunesse de toute époque. Car en fait, la question de la résistance, c'est la question de la jeunesse. Parce que la résistance, c'est se poser le problème du futur. Évidemment, si on est content de ce qui existe au moment où on est là, c'est une chose. Les jeunes, eux, peuvent évidemment avoir tendance à se projeter vers le futur et à se dire quelle est la place qu'on me laisse. Ou alors quelle est la place qu'on me prend. Et ça, c'est le problème de l'époque d'aujourd'hui. Il est bien certain que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, et il faut simplement dire, moi je m'en tiendrai à mon expérience, j'ai été surveillant au lycée Jules Ferry de Saint-Dié entre 70 et 75, et je dois dire que en 75, il était très clair nous allions envoyer les jeunes à la catastrophe.
Novembre 40, Jean Moulin démite ses fonctions de préfet, qualifié de vous le dites dans votre livre, de préfet rouge, la faible réputation qu'il avait, oui. Ou qu'on lui avait donnée. Et puis après, donc, il rejoint Londres pour être parachuté près de Arles en décembre 41.
En janvier 42.
Ou en janvier 42.
C'est-à-dire qu'il est, il a fait son premier voyage à Londres, il est arrivé en octobre, parce que ce n'était pas évident de passer de la France en Grande-Bretagne. Il est parti et il a réussi à arriver en Espagne, ensuite il est passé au Portugal. Au Portugal, on l'a fait attendre pendant un mois, si ma mémoire est bonne, et le temps pour Charles de Gaulle de décider s'il faisait venir Jean Moulin ou pas à Londres. Ensuite, Jean Moulin est parti par bateau jusqu'en Grande-Bretagne. Il a rencontré de Gaulle vers la fin octobre. Et ensuite, après avoir discuté avec de Gaulle, après avoir présenté la naissance de la résistance à de Gaulle, il est rentré en France par avion en étant parachuté. C'est-à-dire que c'est un homme qui a passé 40 ans a dû apprendre à sauter en parachute. C'était vraiment quelqu'un de très courageux. Par ailleurs, le pilote anglais s'étant trompé dans les distances, Jean Moulin s'est retrouvé dans les marais, près d'Arles, voilà.
D'accord. Et il avait pour mission à ce moment-là d'unifier la résistance française.
Oui, parce que la résistance, c'est comme disait Michel Cuny, c'est une question d'abord individuelle. C'est-à-dire que les Allemands sont là, Pétain s'installe, accepte-t-on ces choses-là, ne les accepte-t-on pas? Si on ne les accepte pas, que fait-on? La question s'est posée pour chaque personne. Ou en tout cas, elle s'est posée pour chaque personne, mais chaque personne ne s'est pas forcément posé la question. Une poignée d'individus, une poignée d'hommes, une poignée de femmes se sont posé la question, qu'allons-nous devenir? Doit-on laisser les Allemands tout faire? Doit-on laisser Pétain tout faire? Donc à partir de ce moment-là, des actions, des individus se sont levés contre le régime de Pétain et contre les Allemands. Car il ne faut pas oublier que cette résistance, elle se faisait contre le nazisme, mais aussi contre le pétainisme.
Et réunifier toute la résistance française, ce n'était pas une mince affaire.
C'était renouer les individus entre eux. Ce n'était pas évident. Tout se passait dans la clandestinité. Il y avait un risque énorme. Il y avait des problèmes de sécurité. Il fallait faire très attention. Et il fallait absolument se débattre dans des problèmes quasiment inextricables, dans la mesure où chaque résistant et chaque résistante n'était jamais sûr de ce qui de la personne qui était en face de lui ou d'elle.
Donc, quand on dit la résistance avec un grand R la plupart du temps maintenant, donc en fait ça n'existait pas, on devrait dire les résistances ou les résistants.
Le vieux Jonathan, qui était notre ami, aimait aux enfants raconter sa vie. Redis-nous encore l'histoire des tranchées, la médaille en or que tu as gagnée. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. À sa guerre en trop, pour sauver un gars, il fut un héros, il perdit un bras. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Et s'il s'arrêtait parce que trop ému, nous on lui disait, vas-y continue. Et il racontait. Faut vous dire qu'avant, je vivais pas seul ici. J'avais une femme, elle était jolie. Mais elle trouvait pas que je l'embrassais bien, que je l'embrassais plein, seulement d'un bras. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Son histoire d'amour qui dure pas toujours et les sentiments qui font mal en dedans. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Une larme au bord de ses grands yeux bleus, mais c'était encore pour qu'on rigole mieux. Et le temps passait. Par un jour d'hiver, il a fini son temps. Nous autour de lui attendions comme avant. Il parlait tout bas, mais savait faut croire que la mort n'attend pas la fin des histoires. J'en rigole encore, car avant de mourir, il m'a dit petit, ris encore longtemps, car ma chaîne de vie, je n'ai eu de gratuit que le rire des enfants. J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu dis le petit, il rigole encore, comme les enfants. J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu dis le petit, il rigole encore, comme les enfants. J'en rigole encore, j'en rigole encore, j'en rigole encore.